Amis du soir, bonsoir et bienvenue dans l'émission Flashback. Ce soir, c'est encore une émission spéciale en hommage à Jean-Michel Stewart, l'inventeur du mouvement Disco Mobile, des émissions de radio, mais aussi un homme exceptionnel. Et pour en parler ce soir, il y aura Laurent Chalumeau, Daniel Castel et Patrick Charles pour nous en parler. Donc, une moitié Disco Mobile et l'autre moitié Marlboro Music. Et on commence tout de suite l'émission en musique. Bonne musique en CFM. Premier invité de cette émission, c'est Daniel Castel, qu'on connaît beaucoup plus en tant que Émile Saveur, le traiteur de Montauban, et qui a bien connu Jean-Michel Stewart. Il m'a fait le plaisir et l'honneur de répondre à quelques questions et d'évoquer les souvenirs qu'il garde de Jean-Michel Stewart. En CFM Radio, Daniel Castel. Daniel Castel qui, justement, a bien connu Jean-Michel Stewart. Alors, Daniel Castel, merci déjà de m'accueillir.
Ben merci et bonjour, et puis merci surtout de m'inviter pour parler de Jean-Michel Stewart, qui est effectivement quelqu'un d'exceptionnel. En prélude, je suis effectivement passionné par le domaine de la radio, et il y a trois personnes qui m'ont donné envie de faire de la radio. Il y a eu Georges Laurier, ça ne va pas dire grand chose à beaucoup de monde, mais c'est un personnage ô combien important sur l'antenne de France Inter à l'époque, qui était un homme public, qui avait énormément de succès. Jean-Pierre Foucault et Jean-Michel Stewart. Voilà trois personnes qui m'ont réveillé la passion, parce que je crois que l'animation, la radio, toutes ces choses-là, c'est des passions qui sont souvent enfouies, qu'on aime, et puis il y a des gens comme ça qui vont nous les extérioriser, et après on va les exploiter. Donc au travers de Jean-Michel, ce que j'ai pu le connaître à l'époque, en fait, et de quelle façon je l'ai connu, ben c'était à l'époque de Sud, quand il était animateur. Alors, je ne sais pas, j'avais l'impression qu'il avait commencé ses premières armes à Radio Andorre, mais je ne suis pas tout à fait certain, dont un autre personnage, Alain Chabat, a commencé aussi à Radio Andorre. Et donc, comment je l'ai connu, d'abord parce que c'est un Tarn-et-Garonnais d'origine, et puis en même temps j'étais cette espèce de groupie qui appelait souvent la station pour connaître des morceaux musicaux, enfin etc. Et donc on avait facilement à l'époque les animateurs, on pouvait discuter avec eux, et donc je me suis rendu à Andorre, au 7 avenue Méritschel, où c'est qu'il y avait les studios, et puis aussi à Toulouse où rue Alsace-Lorraine, il y avait le premier studio français de Sud Radio. Donc au travers de ça j'ai pu connaître Jean-Michel et et effectivement avoir des relations très sympathiques, un garçon chaleureux, amical, qui débordait de joie et surtout un énorme professionnel qui, au travers de ses années radio, de ses premières années radio, et d'où son nom d'ailleurs, Jean-Michel Stewart, qui est effectivement Jean-Michel de Florency, mais Stewart, je pense que c'est peut-être sous-jacent à ce qu'il voulait faire à un moment donné dans l'aviation. Donc, je ne l'ai jamais demandé, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Et au travers de ce personnage, j'ai aimé la radio passionnément. Je suis allé maintes fois en Principauté d'Andorre pour le rencontrer. Après, je le rencontrais effectivement sur d'autres lieux d'animation que l'on pouvait voir au travers de l'ensemble, parce qu'à l'époque, justement, les radios périphériques sortaient beaucoup. Il y avait des tournées d'été, il y avait tout un tas d'animations qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui, et c'était quand même quelque chose de qu'on sentait chez lui, le besoin d'aller au-devant du public.
Et ton meilleur souvenir, si tu avais un seul souvenir à retenir sur Jean-Michel Stewart, d'une rencontre avec lui, c'est la meilleure anecdote, ton meilleur souvenir, c'est quoi?
Alors là, la meilleure anecdote de Jean-Michel, c'est à Caussade. À Caussade, parce que il animait la cavalcade de Caussade, donc avec la station, et à l'époque les voitures c'était des ID ou des DS, enfin je ne me rappelle plus laquelle c'était, et pour qu'on puisse le voir, pour qu'il puisse, je dirais, exploser dans son animation qui était extraordinaire, eh bien, il sortait par la fenêtre de la voiture, il s'asseyait sur le rebord, et tout au long de l'après-midi, il faisait l'animation de la cavalcade de Caussade, et ça c'était génial. Moi, je veux dire, c'est quelqu'un que je suivais énormément, et j'avais trouvé, je trouvais ce comportement, cette proximité avec l'ensemble des gens, avec les spectateurs, ça c'était vraiment extraordinaire. Et ça c'est le plus beau souvenir que j'ai de Jean-Michel.
Merci beaucoup, Daniel.
De rien, avec plaisir.
Teenage wasteland. Silence. Exodus is here. The happy ones are near. Let's get together before we get much older.
Le deuxième invité habite également Montauban. Il s'appelle Patrick Charles. Et pour tout vous avouer, c'est lui qui m'a appris à me servir de ma première table de mixage, à parler au micro. Ça fait pas mal de temps maintenant qu'il m'a appris tout ça. Et je le remercierai jamais assez. Il est là pour parler de Jean-Michel Stewart. J'ai le plaisir de recevoir dans l'émission Flashback en hommage à Jean-Michel Stewart, quelqu'un qui a connu Jean-Michel Stewart lorsqu'il faisait de la disco mobile, lors des débuts de la disco mobile en France. Il s'appelle Patrick Charles. Et on se connaît depuis bientôt à peu près 30 ans, si je me souviens bien.
30 ans, ouais.
Ah ouais, ça ne rajeunit pas tout ça.
Enfin, je vous en parlerai un peu plus tard. Patrick, merci d'être présent pour cette émission consacrée en hommage à Jean-Michel Stewart.
Donc, c'est un plaisir.
Alors, je voulais savoir comment tu as rencontré Jean-Michel Stewart, dans quel domaine étais-tu et qu'est-ce qui s'est passé ?
Eh bien, tout simplement, quand je suis sorti de l'armée, j'ai fait un an d'armée, et bon, je ne sais pas trop quoi faire, j'avais un petit diplôme d'électricien, mais bon, ça ne me plaisait pas. Puis la musique, elle me plaisait bien. Et puis j'avais un concept... de faire amuser les gens, de faire danser,
ouais.
C'était bien ça aussi. Alors, avec deux autres copains, on s'est acheté un peu de matos, mais vraiment léger. Ouais. On a commencé à faire des booms pour les amis, comme ça. Et puis, de fil en aiguille, c'était aux environs des années 77, par là,
ouais.
1977.
Ouais.
Et donc, de fil en aiguille, on a commencé à faire des réceptions, des mariages, des balles. Le bal disco, on était les premiers en temps de garde à le faire, ça, je tiens à le signaler. Et donc, le fric qu'on gagnait, on réinvestissait dans le matos. Et j'avais la revue Sono, tu sais, Sono,
oui,
le magazine.
Oui.
Puis là, il y avait Jean-Michel Stewart qui faisait des chroniques de temps en temps.
Voilà, avec son nouveau matériel.
Voilà, ceci, cela. Et puis, il a eu vent, qu'on faisait pas mal de choses. Il a eu vent, tu vois, parce qu'il a la famille ici.
Voilà, exactement. Savez, voilà. Donc, on les salue, qui écoute l'émission, justement.
et donc, moi, j'ai contacté parce qu'il voulait, justement, je ne vais pas dire créer un syndicat, mais rapprocher les gens qui font de la disco. Essayer de faire quelque chose.
C'est-à-dire que fédérer ce travail. Quoi.
Voilà, bah, exactement. Voilà. Je ne vais pas dire ça un syndicat, pas un syndicat, mais.
Une fédération.
Voilà, des gens qui ont la même passion et puis pour évoluer. Bon. Et il a eu l'idée de faire un. Comment on appelle ça? un rendez-vous, il a donné rendez-vous à ceux qui voulaient participer à ça, ce genre de choses, au Golf de Rouault.
Golf de Rouault, donc, à Paris.
Ouais, c'était Jean-Marie Leproux qui le tenait.
Oui.
Il tenait parce qu'il n'y a plus longtemps, le Golf de Rouault, il a été détruit. Mmh. Et donc, je suis monté à Paris, tout seul, comme un grand, en train. Et voilà, j'ai connu Jean-Michel cette histoire, là. Donc, d'une soirée sympa, d'ailleurs, il y a plein de gens qui font la disco. C'était vraiment sympa, hein. Une soirée où on a bien discuté avec lui, et il était content. Il savait ce que je faisais parce qu'il me dit bah, j'ai mes oreilles, j'ai des grandes oreilles. Il me dit,
ah bon.
C'est bien, il me dit, c'est très bien comme ça. Allez-y, faites. Il faut que ça. C'est une autre façon de faire danser, parce qu'autrefois, c'était les orchestres qui faisaient danser.
Oui.
Et voilà, bon, c'est une disco mobile, voilà, la discothèque, c'est la place, comme on dit.
Voilà.
Et c'est très bien comme ça, hein. Et ça a démarré fort. Ah, ben après, bon. Après, il y a beaucoup eu de péripéties. Mais j'ai gardé contact. Alors, si je voulais retrouver, je sais où il était la menem. Mais je n'ai pas retrouvé.
Bon,
j'avais la carte, on a fait une carte de membre.
Oui.
Putain, je ne l'ai pas retrouvé.
C'est pas grave. C'est pas grave.
Mais autrement. Ouais.
C'est de la radio, c'est pas de la télé, je signale quand même.
Non, mais c'est pour te montrer les archives ouais, ouais. que j'avais. Ouais, ouais, ouais. Bon, voilà.
Ah, tout le monde garde des archives d'ailleurs.
Moi, je garde beaucoup les choses.
Ouais, moi aussi, je garde beaucoup de choses, moi aussi, justement.
Donc, toi, Jean-Michel, Jean-Michel Stewart, ouais. Je l'ai connu comme ça.
Ouais. Et c'est grâce à une émission de radio qui s'appelait Marlboro Musique, ainsi qu'à Radio Ingres, où Patrick et moi on s'est connus. Parce que
ouais.
Il faut dire quand même que celui que j'interview maintenant, Patrick, c'est grâce à lui que je fais de la radio. Parce qu'il y a 28 ans de ça, quand je travaillais à Radio Ingres, c'est lui qui m'a appris les rudiments, à mixer, à parler au micro, à savoir
bien,
certaines choses. Et c'est, oui. C'est grâce à lui en partie aussi que je suis
comme
là.
Je t'ai mis le pied à l'étrier, puis voilà.
C'est-à-dire que là, je ne suis plus descendu du cheval depuis 28 ans. Quoi.
T'es toujours...
voilà, c'est clair. Non, mais... Donc parfois j'accélère, parfois je ralentis. Mais...
Ralenti, hein, voilà. Ah, mais voilà, c'est une passion. Hein. Moi, la disco, je l'ai fait pendant presque 30 ans. Tu vois.
Ouais.
30 ans, puis bon, j'en avais un peu marre aussi. Mmh. Et puis bon, comme je bosse à côté maintenant, j'avais quand même un boulot qui me prenait beaucoup dans le spectacle aussi. Donc,
ouais, c'est clair, d'autant plus que tu travailles à Eurythmie.
Et voilà, donc c'est ces soirées, des fois qui durent jusqu'à 5-6 heures du matin, ouais. Je ne pouvais plus assurer à mon nom.
D'ailleurs, je pense que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était quand j'ai fait l'interview de Anthony Cabana.
Oui,
oui. Si je me souviens bien.
Ouais. Il y a 2-3 ans.
Oh non, plus que ça, à peu près, ça va être dans les 8 ans.
Ah bon ?
Oui, à peu près. Dans ces eaux-là.
Ah bon,
voilà.
Okay. Non, mais comme ça, j'ai toujours un pied dans la musique, hein, de toute façon, ouais. Pas de problème. Ouais, hein.
Voilà. On va faire autre chose, par contre. Je voudrais savoir ce que tu as eu comme dialogue avec Jean-Michel Stewart. Est-ce que tu as pu parler avec Jean-Michel Stewart ?
Oui, ben, lors de notre entrevue.
Qu'est-ce que vous vous êtes dit ?
Et bien justement, la passion de la musique, ce qu'il faisait, bon, je savais ce qu'il avait fait, hein,
ouais.
Avant. Puis non, mais c'était dans l'instant, dans l'instant, c'est bien, parce qu'au moins les gens ils parlent. C'était au Golf de Rouault, donc c'est un club mythique, le Golf de Rouault. Ouais. C'était bien cela, moi qui, le petit Montalbanais qui monte à Paris. Là, bon, mais c'était bien, sur un endroit, une ambiance chaleureuse et tout.
Ouais.
Si, on a discuté de tout, de rien, quoi. Mais beaucoup de musique, parce que bon, c'est une passion de musique.
C'est clair.
Et puis surtout, bon, ça le tenait à cœur de rencontrer des gens qui ont la passion, qui font ce boulot, ça,
ouais.
Comme lui, hein, de disco mobile. Et puis voilà, quoi, c'est vrai qu'on a échangé avec tous les gars qu'il y avait, ou les filles aussi, il y avait des filles aussi, tu vois, qui commençaient aussi à faire de la disco. Et je parle d'années 70, hein, déjà. Hein. Tu te rends compte, c'est 77.
Si je me souviens bien, même, il y a l'ancienne chanteuse Muriel du groupe Niagara, qui
oui.
est disque jockey également,
oui.
Qui continue aussi sa carrière de disque jockey de club en club.
Ouais, mais toi. Non, mais c'est bien comme ça. Et on s'est dit plein de choses. Et puis, bon, c'est vrai que comme il est de la région aussi,
voilà.
Alors voilà, ça rapproche un peu plus.
C'est clair,
il dit, voilà. Bah, les nouvelles, il prend des nouvelles, tiens,
ouais.
Voilà.
Ouais.
Mais autrement, ah bon, après, bon, j'ai perdu la vue. Et puis, je ne suis pas du genre à m'accrocher comme ça aux gens.
Mmh.
Chacun mis sa vie. Après,
ouais.
Après bon, voilà. J'ai connu comme ça Jean-Michel Stewart. Je l'ai suivi pendant sa carrière parce que bon, sur Sono Magazine, il y avait beaucoup de reportages sur ce qu'il
ouais.
faisait et tout. J'allais le voir dans la région quand il passait avec sa Sono. Ah, c'est bien, il faisait des bonnes soirées, c'est régalé. On apprenait, j'apprenais aussi là.
Ah, oui, voilà, exactement. C'est-à-dire qu'on apprend toujours, quoi. Hein.
Moi, voilà. Moi, j'apprends toujours. Les jours que t'apprends plus, c'est il faut clair. Arrêter le métier.
Maintenant, ça a beaucoup changé quand même, le métier de disque jockey avant. Parce que c'est clair qu'on avait que les vinyles.
Que les vinyles,
pour, pour aller au tempo, carrément, il fallait vraiment... y aller au tempo, il fallait faire attention au vent lorsqu'on était en plein air, parce que sinon sans ça, le diamant, il rayait le disque, etc. Donc il fallait vraiment faire attention. Parce que maintenant, il y a des facilités avec des logiciels, avec des ordinateurs. Maintenant, tout le monde peut s'improviser disque jockey.
Oui, bien sûr, on peut lancer même un programme automatique et il se fait mix tout seul.
C'est vraiment dommage, quoi.
Il faut avoir quand même une oreille musicale, il faut avoir ce... Bon, voilà. Ça remplace jamais l'oreille, hein, parce qu'il faut avoir... Moi, je le vois, je le fais de temps en temps pour les amis. J'ai le logiciel, comme tu dis. Hein. Voilà, j'ai travaillé dessus.
Tu vois, toi aussi. Hein.
Mais non, ça me...
Tu en viens.
Mais oui, mais c'est normal. Les platines, je n'ai gardé qu'une. J'ai les fameux Technics, voilà. Mais autrement, si, c'est, ça a changé le boulot. Il a beaucoup changé. Mais ce qui reste avant tout, quand même, il faut avoir...
Il faut avoir...
Ça, la petite étincelle qui fait dans une soirée, tu sais, voilà. Ce qu'il faut mettre comme disque, ça et ça et ça. Et ça, le logiciel, il ne sait pas le faire encore.
Et voilà.
Heureusement.
C'est clair qu'une soirée de samedi dernier ne sera jamais pareille que la soirée de samedi prochain.
C'est pour ça que moi, je n'ai pas de programme établi. Quand je veux dire, je n'avais pas de programme. Je n'ai toujours pas de programme d'ailleurs quand je fais une soirée. Hein. J'ai ça dans la tête, j'ai les morceaux qui sont là. Ouais. Et puis, suivant l'ambiance, tu sais ce que c'est, tu l'as fait, tu le fais. Donc, il faut être. Prépondérant, c'est-à-dire que si tu lances un logiciel avec une programmation bien établie, et là tu risques de te planter.
Voilà, exactement. Donc il faut faire confiance à l'instinct.
Et voilà, exactement. C'est
merci
ça.
Infiniment, Patrick, d'être venu. C'est un véritable plaisir. Tu reviens quand tu veux. T'es toujours le bienvenu.
Bien sûr, et puis je t'écouterai.
Ah, ça sera toi.
Il n'y a pas de problème.
À très bientôt, merci.
C'est Michel, salut.
Alors j'ai le plaisir de recevoir par téléphone un homme ayant travaillé avec Jean-Michel Stiwart, journaliste, scénariste, dialoguiste. Il a été pour Patrick Bruel, Michel Sardou, Julien Kerr, a travaillé à Rock and Folk. Il est l'auteur et la muse des sketchs du célèbre duo de Cohn et Garcia sur Nulle part ailleurs, sur Canal Plus bien sûr. Rédacteur de l'émission Malbron Musique des années 80 par Antoine de Cohn et réalisé par J.M. Stiwart. Laurent Chalumeau, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment de votre présence pour cet hommage rendu à Jean-Michel Stiwart.
C'est un plaisir de pouvoir évoquer la mémoire de Jean-Michel et de voir qu'il y a des gens qui se souviennent de Marlboro Music.
Ah ben c'est clair. Et comment vous êtes-vous retrouvé embarqué dans l'aventure Marlboro Music avec Antoine de Cohn?
Quand Antoine s'est retrouvé à proposer aux gens de chez Philippe Maurice le concept de Marlboro Music qu'il avait fait évoluer, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais au départ, dans l'esprit des gens de chez Philippe Maurice et de Jean-Michel Stiwart, il s'agissait juste de passer des disques et puis de demander à Antoine de faire des petites présentations avant ou après, puisqu'Antoine incarnait déjà une espèce comme ça d'autorité en matière de musique anglo-saxonne grâce à ses émissions de télévision. Antoine a dit que ça, de se contenter de ça, ça l'intéressait pas, et surtout ça lui faisait l'effet d'être un peu du gâchis, et donc il avait fait valoir aux gens de Philippe Maurice, que quand on avait une marque comme Marlboro, il fallait essayer de l'exploiter et d'explorer ce que ça pouvait évoquer dans l'imaginaire des gens. Et bien plus que le goudron ou le cancer du poumon, Marlboro, ça pouvait aussi évoquer les grands espaces, les routes américaines, le monument de ballet, etc. etc. Et donc Antoine leur avait dit, moi ce qui m'intéresserait, c'est de vous envoyer, de vous adresser une carte postale musicale et sonore depuis un endroit différent des États-Unis chaque semaine. Et comme à l'époque, les budgets promotionnels des fabricants de cigarettes étaient quasi illimités, le coût de l'opération ne les avait pas du tout fait hésiter. Ils avaient dit oui. Et donc Antoine se voit doté d'un budget pour commencer à déambuler aux États-Unis. Et bon, on était copains depuis déjà quelques années. Et donc, moi j'étais allé m'installer à New York depuis 83. Et donc il savait que je vivais aux États-Unis. Et donc il m'a proposé de l'accompagner dans ses déambulations, dans un premier temps comme compagnon de route, assistant, un peu interprète, parce que bon, comme moi je vivais sur place, j'avais pas de mérite à avoir un anglais un peu moins rouillé que le sien.
Oui.
Et moi j'ai dit oui sans mesurer ce que ça allait engager, mais simplement pouvoir avoir le plaisir comme ça de passer des moments avec Antoine.
Oui.
Et en fait, bien nous en a pris à tous les deux. Lui d'une part, parce que comme l'année suivante, il s'est retrouvé à nouveau à avoir la responsabilité d'une émission de télévision, il était plus disponible pour venir recueillir la matière des émissions de Marbre Musique, donc c'était pas mal d'avoir lancé la machine avec quelqu'un qui pouvait continuer à sa place tout seul,
oui,
et lui envoyer les ingrédients. Et puis moi, après avoir passé une année comme ça à voyager avec Antoine, ce qui était très agréable, j'ai pendant les années qui ont suivi, j'ai fait les mêmes parcours, enfin ou d'autres, mais j'ai voyagé tout seul, ce qui était à certains égards moins rigolo qu'avec Antoine, mais ce qui n'était pas désagréable non plus, parce que bon, ça m'a permis de fureter et de fouiner, et puis de recueillir la matière, d'une part pour les émissions,
oui,
de radio, mais aussi pour des articles, pour des livres, et voilà.
Voilà.
C'est comme ça que je me suis retrouvé à participer à l'aventure Marlboro Music.
Alors, racontez-moi une anecdote d'un voyage ou d'une rencontre hors du commun qui vous est arrivée lors de vos périples.
Alors, hors du commun, écoutez, je sais pas, c'est-à-dire que tout... À chaque étape, on avait quand même très vite, on a pris conscience de la chance qu'on avait, c'est-à-dire que ni Antoine ni moi n'étions, ne le sommes d'ailleurs toujours pas, mais nous n'étions pas blasés, et nous avons très vite pris conscience de la chance que nous avions d'être comme ça en mesure d'aller faire des pèlerinages. Ça peut sembler naïf quand on le raconte aujourd'hui, mais je l'assume tout à fait. Il y a 30 ans, bientôt, il y avait comme ça des villes américaines qui, pour nous, étaient des espèces de lieux sacrés, ce serait exagéré, mais
oui,
enfin des places fortes comme ça, symboliques et mythologiques, qu'on était très émus de découvrir pour la première fois.
Oui.
Et c'est comme ça que ensemble, on s'est retrouvés à aller à Memphis, à Nashville, à New Orleans, et qui sont trois villes, qui sont les trois villes reines de la musique américaine.
Oui.
et d'y déambuler, d'y rencontrer des musiciens. L'une des choses les plus inattendues qui nous soit arrivée à Antoine et à moi, c'est à deux reprises, une fois en Jamaïque et une fois à Los Angeles,
oui,
c'est de nous trouver en présence de musiciens qui exigeait pour répondre à nos questions de nous voir d'abord fumer un pétard d'herbe pour qu'on soit dans le même état qu'eux, qui refusaient de nous répondre si on était sobre. Et donc ils insistaient absolument pour qu'on fume. Alors nous, dans un premier temps, on avait dit oui, bah, ok, pas de problème, parce qu'il fournissait, évidemment, parce que nous, on n'avait pas ça sur nous. Et donc ils fournissaient, dans un cas c'était gratuit à Los Angeles, dans l'autre, c'était très bien organisé parce que le musicien exigeait qu'on soit aussi dans les vapes que lui pour lui poser des questions.
Oui.
Et son manager nous vendait le pétard en question. Donc, à la limite, c'était pas tant de lui acheter qui nous posait un problème. Mais bon, par conscience professionnelle, on se disait qu'on allait quand même peut-être le fumer après, mais,
oui,
mais en tout cas poser des questions... dans un état qui ne soit pas trop proche de l'Alabama. Et non, le manager a exigé de nous voir fumer le truc et de rester pour bien vérifier qu'on le fumait jusqu'au filtre. Donc, vous imaginez que une espèce de cône de la taille d'un plot qu'on met sur la chaussée pour prévenir qu'il y a eu un accident,
oui,
rempli d'herbe jamaïcaine quasiment pure, pour deux blancs-becs pas habitués comme Antoine et moi, ça a des effets assez dévastateurs. Donc,
c'est pour ça peut-être que lorsque vous avez créé le personnage Aquarium, vous aviez peut-être le souvenir de ça, non?
Voilà, exactement. Ça aura entre autres servi à ça.
Ah ouais.
Et heureusement que ça aura servi à ça, parce que je peux vous assurer que l'interview, en revanche, était difficilement utilisable. En fait, en guise de question, il y avait juste deux francs-caouis idiots qui rigolaient bêtement et dans un cas, un rasta qui répondait à côté et avec un accent à découper au laser. Donc, je peux vous dire que d'un point de vue professionnel, c'était pas exemplaire. Mais bon, vous voyez, ça fait un bon souvenir. Après, lui, Antoine, rentrait avec des littéralement des kilos de disques et de cassettes qu'on avait accumulés, soit parce qu'on les achetait, soit parce que les musiciens nous en donnaient.
Ouais.
Et puis, en fonction des notes qu'il avait prises, dans la première année, c'est lui qui prenait énormément de notes partout où on allait, et puis qui rentrait donc à Paris et soit pendant le trajet en avion au retour, soit une fois en France, il écrivait les plateaux, enfin ces interventions dans les émissions. Ce qu'il faut bien voir, c'est que dans un premier temps, et singulièrement pendant toute l'année durant laquelle c'est Antoine Antoine venait sur place et ensuite rédigeait ses textes lui-même, il y avait une approche un peu plus musicologique, même si le mot est un peu ronflant,
oui.
Mais il y avait une volonté un peu pédagogique qui s'est un peu estompée par la suite, mais de vraiment donner une idée assez exacte des différentes couleurs que pouvaient avoir les différentes villes américaines et d'essayer de bien faire ressentir la différence justement qui pouvait exister. Alors je vais prendre des exemples contrastés, la différence entre la musique de Miami et la musique de San Francisco.
Bah, c'est clair, c'est pas la même, oui.
Voilà. Et donc il y avait un côté, et le terme ne va pas être forcément péjoratif, il y avait un côté un peu scolaire dans la démarche, c'est-à-dire qu'on était très très rigoureux, très sérieux, et quand on enregistrait, oui, parce qu'il y avait ça aussi, c'est qu'on non seulement on achetait des disques, on interviewait des gens, mais aussi on enregistrait des sons censés donner comme ça une ambiance, une couleur locale.
Oui, tout à fait. Oui, je me souviens je me souviens de ça, les couleurs locales concernant les radios quand même également. Moi, je me rappelle du début de l'émission de Memphis dans le Tennessee, comme quoi il y avait ainsi parlé d'Arthur Strauss utilisé à Elvis en ouverture de ses shows. Ensuite, il y avait la présentation de Antoine Decaune, et ensuite il y avait un disque jockey de Memphis qui présentait le dernier titre à la mode à l'époque. C'était Aretha Franklin, Wuzumingu, qui passait. Je crois que c'était la cassette Memphis numéro 7, si je me souviens bien.
Eh ben écoutez, vous avez meilleure mémoire que moi. Mais oui, l'idée était vraiment d'essayer de donner une impression sonore des villes. Et on était tellement sérieux un bruit de café ou un bruit de restaurant ou un bruit de bar. Avec des Américains qui trinquent, hurlent, rigolent et entrechoquent leurs bouteilles de bière pour se souhaiter bon anniversaire.
Oui.
Que ce soit à New Orleans ou à Memphis ou à Los Angeles, assez vite ça va se ressembler, surtout si c'est uniquement utilisé en fond sonore. Donc il aurait pu suffire de le faire une bonne fois et puis d'avoir comme ça une banque de données, mais non, pas du tout. Antoine insistait pour enregistrer à chaque fois le bruit du bar dans lequel il allait dire qu'il était passé et dans lequel il allait situer une petite anecdote. Il y avait aussi cet aspect-là, c'est qu'Antoine rentrait avec je sais pas combien de cassettes de bruits de toutes sortes qu'il fallait ensuite dérocher pour savoir exactement à quel endroit se trouvait tel bruit.
Ouais.
Donc, ça lui prenait quand même un temps assez considérable.
Et après,
il remettait toute cette matière entre les mains du magicien du son, Jean-Michel Stewart, qui, lui, faisait l'habillage sonore et mixait musique, bruit de fond, jingle, interview, traduction, enfin voilà. Ça... Mais donc toute la première année, c'était quand même assez pédagogique.
On va également, j'ai appris, moi, récemment, c'est-à-dire en 2012, vous étiez l'auteur des textes de ces émissions-là, quand même. Vous avez fait un travail extraordinaire sur Malbon Musique. Comment se fait-il que votre nom n'est jamais cité?
Parce que c'était pas du tout le... C'était pas le sujet, c'était l'émission d'Antoine... mon nom. Non, parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que du jour où Antoine n'a plus été en mesure de venir lui-même recueillir la matière,
oui.
C'est donc moi qui suis parti la recueillir, la glaner. J'allais dans les villes recueillir des éléments et j'envoyais des notes à Antoine pour que lui écrive ses plateaux. Et puis, assez vite, je me suis aperçu que ça allait plus vite de rédiger, plutôt que de juste envoyer des notes,
oui.
De commencer à les rédiger déjà comme des espèces de brouillons de plateau.
Oui.
Antoine, lui, trouvait aussi ça très commode d'avoir des choses déjà presque prémâchées sur lesquelles il avait plus qu'à rajouter une ou deux petites plaisanteries. Et puis, comme j'ai vu qu'il rajoutait des plaisanteries, bah, je me suis enhardi à les mettre moi-même. Et assez vite, sans qu'on se soit concerté, sans que ça ait été décidé, je me suis retrouvé à écrire les textes d'Antoine. Lui, ça l'arrangeait parce qu'il était très occupé par ailleurs.
Oui.
Et moi, à la limite, bon, ça m'amusait, ça allait plus vite. Mais si vous voulez, il n'y avait pas une démarche comme ça consciente d'auteur. C'était juste pour rendre service et puis parce que ça allait plus vite comme ça. Donc c'est pour ça que, et comme mon nom apparaissait par ailleurs dans les journaux dans lesquels je publiais, je me suis jamais posé la question. J'étais son collaborateur.
Ouais.
Ça me posait aucun problème, ni d'ego, ni de crédit. C'était pas, non, franchement, ça à aucun moment c'était un problème ni un sujet. Et j'ajouterais d'ailleurs que finalement on s'en est très bien trouvé l'un et l'autre, puisque c'est sur la foi de la bonne entente professionnelle qu'on avait eue, sans même parler de l'amitié, mais
oui.
C'est sur la foi de la fructueuse collaboration qu'on avait pu avoir sur Marlboro Music, et surtout de cette capacité que j'avais, moi, à écrire dans une tonalité qui lui convenait et qui pouvait s'approprier comme ça sans même avoir besoin de retoucher, que tout de suite, quand je suis rentré en France, en 90, il a pensé à moi pour venir écrire une rubrique supplémentaire dans l'émission Nulle part ailleurs sur Canal+. Donc
oui.
Vous voyez que tout ça s'enchaîne très logiquement.
Oui, c'est clair. Par contre, est-ce que vous avez une anecdote à raconter sur Jean-Michel Stewart?
Alors écoutez, Jean-Michel Stewart, moi je l'ai moins vu qu'Antoine en fait, parce que Jean-Michel Stewart, il est venu juste pour le tout premier voyage, quand on a fait les émissions New York, New Jersey et Washington, je crois, dans mon souvenir.
Oui.
Il était venu avec un copain à lui, et alors c'était drôle parce qu'il y avait un contraste, Antoine et moi, donc il faut se représenter ça, c'était il y a 30 ans, donc on était un peu victimes de nos mythologies, et donc on s'habillait un peu rock, on se prenait un peu pour des rockers. Et il faut bien voir que Jean-Michel, lui, c'était tout le contraire. Lui, avec ses chemises à manches courtes, largement entrebâillées sur une moquette pectorale fournie, sur une chaîne en or à laquelle il manquait quasiment qu'une dent de requin accrochée,
ouais.
On le regardait quand même avec un peu de circonspection. Et lui, de son côté, aussi, il va nous prendre un peu pour des gugus et des hurluberlus. mais en revanche, Jean-Michel était, à certains égards, et sans le savoir et sans faire exprès, beaucoup plus rock'n'roll que bien des musiciens qu'on a pu croiser, qui se prenaient au sérieux et qui étaient des légendes dans leur propre tête, alors qu'il y avait un côté truculent et déconneur chez Jean-Michel, qui était tout à fait cousin de celui de personnages de légendes du rock comme Keith Moon ou les membres de Led Zeppelin ou tout.
Oui.
C'est souvent dans les groupes de hard rock où il y a des batteurs ou des bassistes qui aiment faire des farces et mettre de l'ambiance partout où ils passent, souvent d'ailleurs dans un registre un peu scato. Ben ça, c'était tout à fait Jean-Michel.
Ça va faire plaisir à la famille qui écoute d'ailleurs l'émission, que je salue d'ailleurs, toute la famille de Jean-Michel Stewart qui habite la région du Tarn-et-Garonne, justement.
Qui sont bien placés pour savoir de quoi je parle
bon.
Et sa femme. Et donc, rien de ce que je peux raconter là ne surprendra ni ne scandalisera d'ailleurs. Parce que il faut imaginer ça avec la truculence d'un espèce de bon vivant.
Oui.
Tout méridional et dit comme ça, ça peut sembler choquant.
Oui.
Et en fait, non, ça passait très bien parce que c'était C'était la gaudriole gauloise, voilà.
Ouais, c'est clair. Et puis d'ailleurs, je tiens quand même aussi, également, comme j'ai fait pour Antoine Decaune, de vous remercier, parce que grâce à vous, j'ai découvert la musique outre-Atlantique. Grâce à vous, je me suis intéressé au blues. Grâce à vous, je me suis intéressé à ce qui se passait outre-Atlantique comme jamais. C'est-à-dire que j'arrête pas d'acheter des disques qui viennent des States. Et c'est clair que rares sont les morceaux français que j'ai. C'est clair que j'ai une culture américaine musicale que je vous dois à vous et à Antoine Decaune grâce à cette émission qui s'appelait Malbourg Musique. Donc merci beaucoup de m'avoir fait voyager pendant tant d'années, parce que ça, c'est clair que moi je là c'est clair que honnêtement on peut le dire à l'antenne, hein, c'est-à-dire qu'on fait un échange de bon escient, c'est-à-dire que je vous fais des cassettes audio Malbourg Musique en MP3 de temps en temps, là je vous envoie de la clé USB, etc. Donc moi c'est toujours un plaisir d'écouter une émission Malbourg Musique.
Bah écoutez, tant mieux. C'est très agréable et très très émouvant même de se dire que quelque chose qu'on a contribué à fabriquer il y a 25 ou 30 ans a fait plaisir et continue à faire plaisir.
Mais donc, vous savez que
merci à vous.
Non, mais c'est grâce à vous. C'est grâce à vous que je fais toujours la radio, que je m'intéresse toujours à ce qui se passe, etc. C'est-à-dire que je suis toujours à la découverte de nouvelles choses. Mais c'est clair que je reste cantonné un peu dans les années 80. Mon émission s'appelle Flashback, bien sûr. Mais c'est clair qu'il y a des sommités que je passe dans mon émission de radio parce que on peut pas oublier comme ça des perles rares que vous faisiez découvrir à l'époque et qui ont parfois n'ont pas passé la grande mare, malheureusement, et c'est bien dommage.
Bon, bah écoutez, voilà. Je vais prendre le relais alors. Hein.
Donc voilà. Ben, j'aimerais bien prendre le relais, mais bon, je sais pas. Non, je sais même pas si ça s'appellerait Malbourg Musique, je sais pas, CFM Musique peut-être, pour l'émission en Flashback, voilà, bon, sait-on jamais.
Je vous laisse faire, plaisir.
Merci beaucoup.
Et je suis ravi si j'ai pu vous fournir la matière à l'une de vos bonnes émissions, donc merci à vous pour votre intérêt.
Merci
bientôt,
beaucoup,
au revoir.
Au revoir, à bientôt. Bien, c'était la dernière émission en hommage à Jean-Michel Stewart. Je remercie vraiment tout le monde ayant participé à ces deux émissions. Je remercie également la famille de Jean-Michel Stewart. Et je remercie également Monsieur Jean-Michel Stewart, car sans son travail, je ne serais pas derrière ce micro-là. Alors merci à vous, Monsieur Jean-Michel Stewart. Je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même antenne, sur CFM, pour la suite des émissions Flashback. Bye bye!
settle down, down, down.